Le journal présenté par Maxime Fayolle.
Bonsoir à tous. Un rassemblement en Catalogne ce soir après le début du procès des dirigeants indépendantistes accusés de rébellion. Au centre des débats devant la cour à Madrid, la tentative de sécession en 2017. Le reportage à suivre de Mélanie Nouniès. Nouvelle confrontation entre Theresa May et le Parlement britannique aujourd'hui. La première ministre s'est présentée sans solution pour le Brexit, mais avec une demande, du temps pour négocier un accord, nous dira Antoine Gignot. La loi Pacte, validée par les sénateurs cet après-midi, texte validé mais amputé de sa disposition phare, la privatisation d'aéroports de Paris et de la Française des Jeux, histoire de faire pression sur les députés de la majorité, nous expliquera Stéphane Robert. Et nous recevons ce soir la chercheuse Isabelle Collet. Avec elle, nous reviendrons sur les révélations sur la Ligue du LOL et les scandales de cyberharcèlement qui ont déjà des conséquences dans les médias. Plus de 6000 personnes dans les rues de Barcelone ce soir. Rassemblement en soutien aux dirigeants indépendantistes catalans dont le procès a débuté à Madrid aujourd'hui. Ils sont poursuivis pour rébellion après la tentative de sécession en octobre 2017. La manifestation de ce soir, Mélanie Nouniès, témoigne d'une fracture toujours présente entre Madrid et la Catalogne.
Un microphone à la main, Patty crie sa colère. Ce n'est pas un procès, mais une farce, lance-t-elle. Cette quinquagénaire aux cheveux blancs avait voté pour l'indépendance lors du référendum.
Ce n'est pas la démocratie, c'est un déni de liberté pour les prisonniers, un déni de liberté pour la population. Ces prisonniers vont rester en prison, c'est sûr. Pourtant, nous avons décidé, nous avons voté pour eux. Ça fait un an que je sors dans la rue, j'irai jusqu'au bout. Et si je ne peux pas, je partirai d'Espagne. Je suis très en colère.
Près d'elle, Pera, dans sa main, un immense drapeau décoré d'un ruban jaune, symbole de soutien. Et ce slogan, repris par la foule, colère.
Ils me jugent moi aussi, car j'ai voté pour le référendum. Nous essayons de transmettre toute la chaleur que nous pouvons depuis Barcelone, ce qu'on appelle notre République catalane. C'est très important de montrer à Madrid, au gouvernement espagnol, que nous, les indépendantistes, on est toujours mobilisés et qu'on va atteindre notre objectif.
Lorsque l'hymne national catalan est entonné sur la place Catalogne, Maria Teresa verse une larme.
Les peines sont très exagérées. Ils n'ont pas fait de coup d'État. Ça me fait de la peine. Ça me rend très triste. On n'aurait jamais imaginé que ça se termine ainsi.
Beaucoup estiment que ce procès est antidémocratique. Ils ont prévu cette semaine de se rassembler chaque soir sur la place Catalogne en signe de résistance. Et ils organiseront samedi prochain une grande mobilisation pour bloquer le centre de la ville.
Mélanie Nouniès à Barcelone. Verdict d'ailleurs de ce procès attendu à l'été. Le Brexit se rapproche, du moins la date. Le départ du Royaume-Uni est prévu le 29 mars, c'est dans 45 jours. Pourtant, plus la date approche et moins l'on sait comment les Britanniques vont mettre en place cette sortie. Les parlementaires ont rejeté l'accord trouvé par les Européens et Theresa May. La Première Ministre qui était de retour devant la Chambre des communes aujourd'hui, Antoine Gignot, et à la sortie, le problème reste entier.
Elle devait apporter des solutions. À la place, elle réclame du temps. Theresa May, face aux parlementaires, reconnaît qu'elle n'a obtenu aucune concession de la part des chefs d'État de l'Union européenne. Mais, dit-elle, la négociation continue avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission.
Nous sommes tous les demi d'accord. Nos équipes vont continuer à discuter et nous nous rencontrerons de nouveau avant la fin du mois de février pour prendre acte de l'avancée de ces négociations. En somme, le travail continue et je crois que nous pouvons arriver à un accord qui soit accepté par le Parlement.
Pourtant, Theresa May ne donne aucune date butoir, aucune précision sur le calendrier. Le chef du groupe des indépendantistes écossais lui reproche publiquement de mentir. Jeremy Corbyn, le chef de file de l'opposition, l'accuse de chercher à gagner du temps.
On nous avait promis un accord pour le mois d'octobre dernier, il n'a pas eu lieu. On nous avait promis un vote sur l'accord de sortie en décembre, il n'a pas eu lieu. En réalité, la Première Ministre n'a qu'une seule tactique. Elle cherche à jouer la montre pour, au final, faire du chantage aux parlementaires et leur faire accepter un accord profondément imparfait.
Et c'est le même discours chez les représentants de la finance. La City of London réclame des avancées. Les entreprises ne peuvent pas se permettre de conclure un accord à la dernière minute, explique son porte-parole. Un Brexit sans accord et sans période de transition, explique le gouverneur de la Banque d'Angleterre, serait une catastrophe économique.
Antoine Gignot. Aux États-Unis, Donald Trump écarte la possibilité d'un nouveau shutdown. Un accord temporaire a été trouvé, il tient jusqu'à vendredi soir. Républicains et démocrates ont trouvé un nouvel accord mais qui ne satisfait pas Donald Trump, notamment sur la construction du mur à la frontière mexicaine. Et quand certains cherchent à construire des murs entre deux pays, d'autres tentent d'y créer des tunnels. Le Lyon-Turin entre la France et l'Italie, un dossier vieux de 30 ans, est finalement tout aussi mal embarqué que le mur de Donald Trump. Dernier problème en date, le rapport des experts italiens sur la rentabilité de cette ligne ferroviaire. Il pointe un déficit possible de 7 milliards d'euros à l'horizon 2059. Un rapport qui va dans le sens du mouvement 5 étoiles. Olivier Tosseri, il faut dire que ces experts n'ont pas été choisis au hasard.
Oui, des experts tous connus pour leur scepticisme, voire leur opposition au projet. Un trou inutile dans une montagne, c'est comme ça qu'avait défini le ministre des Transports italien, qui leur a commandé ce rapport de 80 pages. Un rapport qui dénonce un gigantesque gaspillage. Les coûts seraient supérieurs de près de 7 milliards d'euros aux éventuels bénéfices. Afin que cette infrastructure soit rentable, les experts estiment que le trafic devrait être multiplié par 25 ces 40 prochaines années. Le nombre de voyageurs devrait ainsi passer à presque 5 millions en 2059 et les marchandises des 2,7 millions de tonnes actuellement à 52 millions de tonnes par an. C'est donc une croissance annuelle des flux de 2,5% qui est jugée impossible. L'État italien, enfin, perdrait quant à lui une cagnotte de presque 5 milliards d'euros avec la baisse des rentrées fiscales liées à la baisse de la consommation de carburant et à celle des recettes liées au péage autoroutier. Ce rapport était censé constituer le point de départ d'un dialogue entre Paris et Rome. Le dialogue doit d'abord s'achever en Italie. Le patronat parle d'un rapport qui est une arnaque. La Ligue veut terminer le chantier au plus vite pour sauver les emplois. Quant au mouvement 5 étoiles, il juge que les Italiens n'ont pas besoin d'envoyer de la mozzarella en France en gagnant 20 minutes, mais d'avoir au plus vite le TGV en Sicile.
Précision d'Olivier Tosseri pour France Culture. Le groupe Havas va faire appel de sa mise en examen dans l'affaire Business France. Le groupe est poursuivi par la justice, comme le révèle le Canard Enchaîné à paraître demain. En 2016, le groupe avait organisé une soirée en l'honneur d'Emmanuel Macron à Las Vegas pour le compte de l'entreprise Business France, dirigée à l'époque par l'actuel ministre du Travail, Muriel Pénicaud. La soirée à près de 300 000 euros n'avait pas fait l'objet d'un appel d'offres. La loi Pacte, elle, adoptée ce soir en première lecture par les sénateurs. Une loi qui doit faciliter la vie des entreprises et engendrer de la croissance. Les sénateurs ont pourtant amputé une mesure phare qui devait rapporter beaucoup d'argent, Stéphane Robert. C'est la cession d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux.
Les privatisations d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux doivent permettre, selon les explications du gouvernement, de constituer un fonds de 10 milliards d'euros dont les intérêts, une fois placés sur les marchés financiers, seraient susceptibles de financer des politiques innovantes. Mais pour la droite, majoritaire au Sénat, et plus particulièrement pour le groupe Les Républicains, représenté par la sénatrice des Yvelines, Sophie Primas, c'est une absurdité sur le plan strictement comptable.
La motivation présentée par le gouvernement nous semblait peu convaincante. Les perspectives de croissance de ces deux entreprises laissent présager de solides dividendes.
Et la droite dans cette affaire a reçu l'appui de la gauche, en particulier des socialistes, représentés par le sénateur du Doubs, Martial Bourquin, qui a notamment expliqué qu'il ne fallait pas reproduire l'erreur commise en 2005 avec la privatisation des autoroutes.
Je trouve, moi, qu'il est vraiment très intéressant que la gauche et la droite défendent ensemble l'intérêt national lorsqu'il s'agit de pépites publiques comme ADP et la FDJ. On ne vend pas des bijoux de famille à des intérêts privés. Ces privatisations sont une aberration économique et une erreur politique.
Mais concernant cette loi Pacte, les sénateurs se sont livrés à un jeu politique assez habile. Ils ont d'une part validé le projet voulu par le gouvernement et d'autre part supprimé cette disposition majeure que sont les privatisations d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Dès lors, les députés vont devoir les réintroduire et assumer publiquement ces dispositions impopulaires à l'occasion du retour de ce texte devant l'Assemblée d'ici quelques semaines. Ce qui, dans un contexte social loin d'être apaisé, sera peut-être difficile à endosser par un certain nombre de parlementaires de la majorité.
Stéphane Robert. La liste des mises à pied de journalistes s'allonge après les révélations de cyberharcèlement. Ils sont au moins 5 membres d'un groupe Facebook, la Ligue du LOL. De nombreuses voix s'élèvent maintenant pour l'ouverture d'une enquête qui conduirait à un procès. On en parle ce soir avec la chercheuse Isabelle Collet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Genève, autrice d'une thèse sur la masculinisation des études d'informatique. Que vous inspirent les suites de cette affaire et ses conséquences ?
Alors, je suis impressionnée par la vitesse à laquelle les réactions se sont montrées. Enfin, on voit bien que depuis MeToo, le monde a changé. D'ailleurs, on a bien vu qu'il y a quelques années, on n'avait pas du tout des réactions aussi rapides. Et surtout, à aucun moment, les paroles de ces femmes ont été mises en doute.
Donc, il y a eu des conséquences, ce qui est plutôt une bonne chose pour vous.
Ah, tout à fait, voilà. Et puis, moi qui travaille actuellement beaucoup sur les questions de cyberharcèlement à l'école, et en particulier au secondaire, ça me semble la moindre des choses d'avoir des réactions aussi, d'avoir une réaction aussi rapide si on veut par ailleurs avoir un discours cohérent sur la lutte contre le cyberharcèlement à l'école.
On va prendre un petit peu de recul. Est-ce que cette bande de journalistes, que ce soit la Ligue du LOL ou d'autres hein, d'ailleurs, est-ce qu'on peut les rapprocher des boys clubs un peu à l'américaine ?
Alors, l'ennui de tourner les choses sous cet angle, c'est qu'on a l'impression que ce serait un import récent ou quelque chose d'exotique qu'on aura importé en France. Non, en fait, c'est-à-dire des situations de harcèlement sexiste, raciste ou homophobe en groupe d'hommes homogènes qui se sont retrouvés pour des paraffinités en général, par exemple, dans une même école, ça a toujours existé. Les bizutages s'en sont nourris. Les clubs d'anciens d'école s'en sont nourris. Les Américains ont un nom pour ça. D'autant plus qu'il y a des fraternités très puissantes dans les écoles américaines et instituées en tant que telles. Même si c'est moins institué en France, c'est des phénomènes qui ont toujours existé. Là, la nouveauté, ça a été qu'on a pu passer au niveau cyberharcèlement.
Est-ce qu'il y a quand même une notion clé qu'on retrouve entre ces boys clubs et cette Ligue du LOL ? Est-ce qu'il y a une volonté de prendre le pouvoir, une volonté de domination aussi ?
Oui, c'est clairement une question de pouvoir hein, et de vouloir écarter des concurrents non désirés. Je pense que ce qui est propre aussi à cette profession, c'est d'une part le fonctionnement très fort par cooptation et la précarité d'un certain nombre d'emplois qui, d'un côté, empêche une certaine protection par le droit du travail et d'autre part, oblige à faire partie des bons cercles, des bons endroits pour pouvoir avoir une place. Qui explique aussi l'attraction qu'a créé ce groupe de personnes et qui ont attiré autant de suivants. Parce qu'une bonne façon de penser que l'on est du côté des dominants, c'est d'avoir désigné des dominés en commun. D'une part, ça nous protège et d'autre part, ça donne le sentiment qu'on est du bon côté. Donc, même s'il n'y avait pas de stratégie de constituer un groupe de pouvoir à l'origine, de fait, cette recherche du pouvoir a été le moteur principal, ce qui a fait qu'ils ont été suivis.
Vous parlez des dominants et pourtant vous dites qu'ils se sentent menacés, c'est presque paradoxal.
C'est presque paradoxal, mais pour autant, quand on voit par exemple les progrès que font les droits des femmes, les hommes ont toujours perçu cela comme une menace, parce qu'en fait, ce que les dominants perçoivent comme des privilèges, les personnes qui les détiennent pensent que c'est juste normal. C'est ce phénomène qui est en train de se produire.
Il y a des hommes parmi cette Ligue du LOL qui tentent de se justifier, qui parlent d'humour, en fait, qui expliquent que ça leur a échappé. Est-ce que c'est une justification qui peut convenir à ce club-là ?
Alors que ça a échappé, ça, on est bien d'accord. En soi, ça ne justifie rien. Par ailleurs, l'humour a très très longtemps été utilisé comme excuse pour faire passer les pires messages sexistes, racistes et homophobes sous prétexte que puisque ça fait rire, c'est pas grave. La question c'est que, évidemment, ça fait des dommages sur les personnes qui sont ciblées. Et puis, l'autre chose c'est que je ne suis pas absolument convaincue que les gens ne croyaient pas en ce qu'ils faisaient quand ils le faisaient. C'est-à-dire, après tout, peu importe que ces personnes soient ou ne soient pas profondément racistes, sexistes ou homophobes, ce qu'ils ont diffusé et lâché dans l'espace public l'était. Et à partir de ce moment-là, l'humour n'excuse absolument rien.
Est-ce que ça peut ouvrir maintenant des vannes sur d'autres domaines, puisqu'on voit que ça arrive dans le domaine journalistique, mais est-ce que ça peut maintenant ouvrir la place à la dénonciation d'autres clubs d'hommes ?
Alors, je pense que ces vannes ont déjà été grandement ouvertes au moment de MeToo, déjà. Probablement, ce qu'on assiste actuellement, c'est un rebond de cette libération de la parole des femmes. Je pense qu'effectivement, ce qui va être déterminant dans cette affaire, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'impunité indéfiniment. C'est-à-dire, effectivement, c'est pour la plupart de ces affaires, c'est prescrit. Pour autant, on a une société civile qui est capable de porter un jugement moral sur ce qui s'est passé. Au moins, ça envoie le signal que ces actes-là ne sont pas gratuits, on ne peut pas s'en tirer comme ça, quoi.
Merci Isabelle Collet. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Université de Genève. On termine par le temps de ce mercredi et le soleil qui persiste sur tout le pays. À noter de la grisaille au nord et des gelées matinales, il fait de moins 4 à 8 le matin jusqu'à 16 degrés l'après-midi. Ce journal a été préparé et réalisé par Nathalie Lopez avec Élise Le à la technique.